Chapitre 53.
Nietzsche,
dit Z, un peu hésitant, comme s'il avait du mal à trouver ses mots.
Tu es, eh bien, quelqu'un comme moi, qui tient beaucoup à Richard. Je dirais même quelqu'un qui l'adore et qui lui voue une loyauté sans borne. Sous bien des aspects, on dirait même que...
Il leva les yeux au ciel.
Fiche très foutre, je n'arrive pas à m'exprimer. Z, nous aimons Richard, si c'est ça que vous voulez dire. Car à vous et moi, nous avons ce sentiment en commun. Je crois que c'est bien vu, oui. Je ne me souviens pas du tout de Callan, mais j'ai l'impression de penser à toi comme je penserais à elle, si je pouvais y penser. Je sais, c'est un peu confus, mais tu saisis l'essentiel.
Nietzsche eut le sentiment que la foudre venait de la frapper. S'interdisant de réfléchir aux implications de ce que venait d'annoncer le vieil homme, elle réussit à garder une contenance et à demander d'une voix qui ne tremblait pas.
« Où voulez-vous en venir, Z ?»« Comme Cara et Richard, j'en suis venu à t'estimer alors que c'était loin d'être le cas lors de notre rencontre. Comme je te l'ai déjà dit, plus ou moins clairement, je me fie à toi autant que je me fierais à une belle fille. »
Nietzsche garda les yeux baissés pour ne pas trahir son trouble.
« Merci, Z. Lorsqu'on connaît mon passé et l'opinion que j'ai longtemps eue de moi-même, ces compliments prennent une importance que vous ne soupçonnez pas. Savoir que des gens comme vous, sans arrière-pensée, ont... »
Nietzsche s'interrompit, leva les yeux vers le premier sorcier et décida d'en rester là. Malgré l'impact qu'avaient ses déclarations sur elle, Z visait autre chose que de simples effusions et il fallait entrer dans le vif du sujet.
« Vous voulez me dire quelque chose ?»
Z acquiesça.
« J'ai appris des choses très troublantes, du genre que je garde pour moi en règle générale, mais Cara et toi êtes les deux personnes, à part Richard, qui m'inspirent le plus confiance. Dans cette aventure, vous êtes devenus beaucoup plus que des amis. Je ne suis pas très doué pour exprimer mes sentiments, alors... »
Pour encourager le vieux sorcier, Nietzsche lui posa une main sur l'épaule.
« Nous retrouverons Richard, Z, je vous le jure. Vous avez raison, il compte énormément pour moi. C'est lui qui a changé ma vie à jamais. Si quelque chose vous tracasse, Cara et moi sommes là pour vous écouter, comme le serait Richard s'il le pouvait. Ne soyez pas gênés. Nous éprouvons toutes les deux la même affection pour Richard, et dans mon cas, c'est même... Enfin, vous connaissez ma loyauté à la cause. »
Consciente d'en avoir trop dit et d'avoir ensuite pataugé dans sa tentative de noyer le poisson, la magicienne s'empourpra.
« J'ai besoin de votre aide, »
dit Z, oubliant enfin ses scrupules.
« Mais avant, vous devez comprendre ce que vous représentez pour moi. Je suis bavard, c'est vrai, mais c'est une façon de mieux taire certaines choses. Toute ma vie, garder une multitude de secrets m'a beaucoup coûté, mais je ne pouvais pas faire autrement. » C'était souvent difficile, mais je savais qu'il le fallait. Aujourd'hui, tout est différent et je dois parler. L'enjeu est capital. Dans ces conditions, le secret n'a plus de sens. Je comprends, Z, et comme Cara, je ferai de mon mieux pour être digne de votre confiance. Le livre de l'inversion et du double était caché dans un endroit que je suis le seul à connaître, pour être précis, dans une crypte sous la forteresse.
Nietzsche et Cara se regardèrent, très surprises.
Vous voulez dire qu'il y a des ossements sous le complexe et des livres? Une montagne de livres, oui. Et parmi eux, j'ai trouvé celui dont je parle. À ma connaissance, personne n'a jamais su qu'il y avait un ossuaire ici. Moi, je l'ai découvert quand j'étais enfant. Il n'y avait pas l'ombre d'une empreinte dans la couche de poussière qui couvrait le sol. Depuis des millénaires, nul n'était entré dans ce sanctuaire. Malgré mon jeune âge, j'ai mesuré l'importance capitale de ma découverte. Ce jour-là, j'ai eu la trouille de ma jeune existence. J'étais déjà effrayé parce que je cherchais un chemin pour retourner en douce dans la forteresse. Quand j'ai déboulé dans la crypte, il m'a paru évident qu'on l'avait dissimulé ainsi pour d'excellentes raisons. Du coup, même si j'en brûlais d'envie, je n'ai parlé à personne de ma découverte. À vrai dire, j'avais le sentiment qu'on m'avait autorisé à entrer à condition que je me taise. J'ai pris cet engagement implicite au sérieux et je suis devenu en quelque sorte le protecteur de ce sanctuaire. Après tout, il abritait les restes d'une multitude de gens, y compris ceux de mes ancêtres, qui peut le dire. Les endroits secrets attisent toujours la convoitise des hommes, et je n'avais pas envie qu'on profane cet antique tombeau. En plus de tout, je me sentais coupable d'avoir profané une tombe pour des raisons plus triviales, éviter une punition. Désireux d'aller faire un tour sur le marché d'Aïdindril, j'étais sorti illicitement de la forteresse, où j'aurais normalement dû passer mon temps à étudier de vieux bouquins poussiéreux. Après mon aventure, j'ai posé des questions bien déguisées et découvert qu'aucun sorcier, si blanchi sous le harnais fut-il, ne connaissait l'existence de la crypte. Au fil du temps, il est apparu évident que personne n'avait jamais soupçonné la présence d'un ossuaire sous le complexe. Très pris par mes études, je n'ai pas souvent eu l'occasion d'explorer la bibliothèque secrète. Et quand je l'ai fait, je me suis aperçu qu'elle contenait nombre d'ouvrages, dont un exemplaire était conservé sur les rayonnages d'en haut. Un peu trop vite, j'ai conclu que cet endroit était beaucoup moins important qu'il semblait l'être.
Le vieux sorcier eut un sourire mélancolique.
« Je rêvais d'être un grand explorateur. Et qu'avais-je découvert? De vieux ossements et des livres sans intérêt. Il y avait tellement d'ouvrages dans le complexe que ça revenait à avoir trouvé de l'eau dans la mer. Rien de bien excitant, pas vrai? Dans la crypte, des dizaines de salles débordent de bouquins aux pages jaunies par le temps. Je n'ai jamais eu le loisir d'explorer ces bibliothèques, et j'aurais du mal à seulement estimer le nombre d'ouvrages qu'elles contiennent. De toute façon, aucun des livres que j'ai vus ne m'a marqué. Un défaut de jeunesse, peut-être. Enfin, presque aucun. Il y a des exceptions, par exemple, le livre de l'inversion et du double. Devenu adulte, je suis tombé amoureux de la femme la plus merveilleuse du monde. Après notre mariage, elle a donné le jour à l'autre soleil de ma vie. Ma fille, la future mère de Richard. Pour un jeune sorcier père de famille, il y avait trop à faire ici pour que je gaspille mon temps dans un ossuaire. La guerre contre Dara éclata quelques années après la naissance de ma fille, des temps difficiles et sombres. Ayant été nommé premier sorcier, j'ai dû envoyer des hommes à la mort dans d'horribles batailles. Les yeux dans les yeux, j'ai demandé à de jeunes sorciers de se dévouer pour la cause, et je savais qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Ils essayaient, ils échouaient, et je me retrouvais avec quelques morts de plus sur la conscience. Moi, j'étais capable de réussir, j'en avais parfaitement conscience. Mais comment aurais-je pu être partout à la fois? Il fallait établir des priorités, un nom fleuri qui désignait la charrette des condamnés. Écrasé par les responsabilités, j'ai souvent pensé que le savoir et les compétences étaient des malédictions. Avoir conscience que tant de gens comptaient sur moi et qu'ils mourraient si j'échouais, quelle horrible responsabilité. En ce domaine, je sais très exactement ce qu'endure Richard. J'ai joué le même rôle que lui, portant le monde sur mes épaules.
Le vieux sorcier eut un geste mélancolique, comme s'il voulait chasser loin de lui un passé qui le hantait.
Avec tout ça, la crypte est pratiquement sortie de mon esprit. Ayant si peu de temps à ma disposition, qu'aurais-je été y faire? Surtout avec l'idée préconçue qu'elle ne contenait rien d'intéressant, tant d'autres choses paraissaient plus urgentes. Bref, la crypte ne représentait rien pour moi, à part un passage secret permettant d'accéder à la forteresse. Beaucoup plus tard, quand les sœurs de l'obscurité ont investi mon fief, ce passage s'est révélé d'une formidable utilité. Mais reprenons le fil de mon histoire. Après la guerre, alors que ma femme comptait parmi les victimes, j'ai eu, avec le conseil, une amère dispute au sujet des boîtes d'Ordaine. Puis, ce chien de Darkenral a violé ma fille. Jugeant que la coupe était pleine, j'ai décidé de quitter les contrées du milieu et de m'exiler en terre d'ouest avec ma chère petite. C'était la dernière personne qui comptait pour moi, et j'avais bien l'intention de finir ma vie de l'autre côté de la frontière, dans un pays qui ignorait tout de la magie. puis Richard naquit, et le voir grandir me redonna goût à la vie. Bien qu'il fût le fruit d'un viol, ma fille était si fière de lui. En secret, je redoutais qu'il ait le don, incitant des forces obscures à traverser la frontière pour venir le chercher. Un soir, la maison de George Cypher brûla, et ma fille mourut dans les flammes. Richard était désormais orphelin. J'ai reporté tout mon amour sur lui, me consacrant à le préparer du mieux possible à ce voyage à la fois merveilleux et horrible qu'est la vie. Près de lui, j'ai connu une des plus belles périodes de mon existence, loin de la violence et de la magie. À mon insu, puisque j'avais fait mon possible pour me couper du monde, Anna et Nathan, guidés par les prophéties, aidèrent George Cypher à subtiliser le grimoire des ombres recensées dans l'enclave privée du premier sorcier, où je le croyais en sécurité. « Un moment, » le coupa Nietzsche. « Dois-je comprendre que cet ouvrage, un des plus importants du monde, était à la disposition de n'importe qui dans votre enclave ?»«
Eh bien, à la disposition de n'importe qui, c'est beaucoup dire. L'enclave privée est encore mieux défendue que le reste du complexe. Ne va pas croire qu'on y entre comme dans un moulin. »
Si cet endroit est tellement sûr, comment Anna, Nathan et George ont-ils pu voler le grimoire ?
Z soupira à Pierre Fendre.
C'est ça qui a fini par me perturber. L'unique exemplaire d'un livre capital se révélant si vulnérable.
C'est ce que Richard venait vous dire,
s'écria Nietzsche, tout devenant soudain clair dans son esprit.
Il était pressé de vous voir, et il avait une très bonne raison.
De quoi parles-tu, mon enfant ?
Nietzsche approcha du vieil homme et sortit de sa poche le petit livre que Richard lui avait confié.
« Voici le livre que Darkenral a utilisé pour remettre dans le jeu les boîtes d'Orden. »«
Pardon ?»«
Voilà le livre que Darkenral a utilisé pour remettre dans le jeu les boîtes d'Orden, »
répéta Nietzsche.
« Nous l'avons trouvé au palais du peuple. J'ai promis à Richard de l'étudier pour voir s'il y a moyen d'annuler ce café Ulyssia. » En d'autres termes, de retirer du jeu les boîtes d'Orden. J'ai tenté d'expliquer à votre petit-fils que la magie ne fonctionne pas comme ça, mais il n'a rien voulu entendre. Vous le connaissez, le mot « impossible » ne figure pas dans son dictionnaire personnel.
Z baissa les yeux sur le petit livre, méfiant comme s'il s'agissait d'un serpent susceptible de le mordre.
« Ce garçon est doué pour découvrir une vipère sous chaque pierre qu'il retourne. »
Z. Pour utiliser ce livre, est-il précisé, il faut disposer de la clé. Sans elle, toute démarche visant à remettre dans le jeu les boîtes d'Orden ne serait pas seulement stérile, mais fatale pour le monde. Dans un délai d'un an, la clé doit servir à achever le processus.
« La clé ?»
murmura Z, accablé comme si on venait de lui apprendre l'imminence de la fin du monde.
« Après avoir été remise dans le jeu, les boîtes doivent être ouvertes dans un délai d'un an. Pour ça, il faut détenir le grimoire des ombres recensées. À mon avis, c'est ça la clé.
Je le crois aussi, dit Nietzsche. Mais un texte très ancien dit que des sorciers ont fait 5 copies d'un livre qui n'aurait jamais dû être copié.
Et selon toi, il s'agit du grimoire des ombres recensées ?
Oui. Dans un recueil de prophéties, on trouve la phrase suivante. « Les crétins pompeux seront tellement nerveux quand ils copieront la clé qui n'aurait jamais dû l'être, qu'ils trembleront de peur devant leur propre audace et jetteront l'ombre de la clé parmi les ossements afin qu'on ne sache jamais qu'un seul exemplaire fut réalisé correctement. »
Z écarquilla les yeux comme si une montagne venait de lui tomber sur la tête.
« Fiche très foutre !» On dirait un extrait des ragots de Margot.
C'est exactement ça. Il existe 5 copies, mais une seule est fidèle. Les autres sont des faux.
Z se plaqua une main sur le front. Soudain inquiète, Nietzsche remarqua qu'il respirait très vite, comme s'il était sur le point de s'évanouir.
Z, que vous arrive-t-il ?
Tu as dit que le grimoire des ombres recensées était vraiment trop facile à voler. J'ai toujours pensé la même chose, mais j'occultais cette idée, comme si j'avais refusé de voir la réalité en face. Et alors, quand je me suis souvenu du livre de l'inversion et du double, j'ai cherché à savoir où je l'avais vu pour la première fois, et ça m'est revenu. Dans la crypte. En ayant besoin pour étudier le sort d'oubli, je suis allé le récupérer.
Nietzsche devina ce qui allait venir.
En cherchant cet ouvrage, je suis tombé sur un exemplaire, ou plutôt une copie, du grimoire des ombres recensées. Ils trembleront de peur devant leur propre audace et jetteront l'ombre de la clé parmi les ossements.
Cita Nietzsche.
Jusqu'à ces derniers jours, j'ignorais qu'il existait d'autres exemplaires de ce livre. On m'avait toujours dit que ce n'était pas le cas, et ça me semblait la preuve de l'importance du volume. Mais dans ce cas, pourquoi n'était-il pas mieux caché? Cette question m'a toujours tourné dans la tête, sans que je prenne le temps d'y répondre. C'était une des raisons de mon désaccord avec le conseil au sujet des boîtes d'Ordaine. Je trouvais aberrant de les distribuer comme des cadeaux de prestige, alors qu'elles étaient si dangereuses. Mais personne ne voulait me croire, comme si je me référais à d'antiques superstitions ou à des fables pour enfants. Le scepticisme des gens pouvait à la rigueur se comprendre, puisqu'on n'avait jamais trouvé le livre servant à mettre dans le jeu les boîtes d'Ordaine. Sans cet ouvrage, les artefacts passaient pour des accessoires de contes de fées.
Z désigna le volume que tenait Nietzsche.
Pour tout te révéler, personne ne connaissait le titre de ce livre. On dirait que c'est du Haut-Daron. Il faudra que quelqu'un nous le traduise. Je lis cette langue,
annonça Nietzsche.
Bien entendu, bien entendu,
soupira Z comme si plus rien ne pouvait le surprendre.
Et ce titre alors? Le livre de la vie.
Z devint blanc comme un linge. De toute évidence, il n'était pas si blasé que ça.
« Le livre de la vie, »
répéta-t-il accablé.
« Quel titre approprié! Le pouvoir d'Ordaine a pour source la vie elle-même. Ouvrir la bonne boîte revient à détenir un contrôle absolu sur toutes les créatures vivantes ou mortes. S'il ne se trompe pas, celui qui ouvre la boîte devient omniscient et tout-puissant. S'il se trompe, eh bien, ça dépend. » Ouvrir l'une des deux mauvaises boîtes le tuera, et rien de plus. Mais ouvrir l'autre, la fin du monde, voilà ce que ça entraînerait. Et ces maudites boîtes sont parfaitement identiques. La magie d'Ordaine est la sœur jumelle du pouvoir de la vie. Hélas, la mort est associée à tout ce qui existe. Du coup, le pouvoir d'Ordaine est lié au monde des vivants et au royaume des morts. La clé permet de savoir quelle boîte ouvrir. Sans elle, le risque encouru est tel qu'il faudrait être idiot pour essayer. Ou se ficher du résultat,
le corrigea Nietzsche,
comme les sœurs de l'obscurité. Ouvrir la mauvaise boîte ne les dérangerait pas.
Z dévisagea la magicienne avec des yeux ronds comme des soucoupes.
Vous avez donc trouvé une des copies ?
Lança Kara lorsqu'elle trouva que le vieil homme se taisait depuis trop longtemps. Nietzsche fut soulagé que la mort de Sid se charge d'arracher Z à des pensées si sombres qu'elle préférait ne pas tenter d'en deviner l'essence.
« J'ai peur que ce ne soit pas le plus grave, »
dit le vieil homme.
« Quand il était enfant, Richard a appris par cœur le grimoire des ombres recensées. Son père adoptif, George Cypher, avait peur que l'ouvrage tombe entre de mauvaises mains. Trop intelligent pour détruire de telles connaissances, il s'assura que Richard les grave dans sa mémoire. Ensuite, le futur sorcier et l'homme qu'il prenait à l'époque pour son père brûlèrent l'ouvrage. Quand il voulut ouvrir la bonne boîte, Darkenral, qui avait capturé Richard, le força à lire les instructions contenues dans le grimoire. Sans doute à cause de la chaîne de flammes, je ne me rappelle plus les détails de cette affaire. Mais j'étais présent, et certaines choses ne se sont pas effacées de ma mémoire. Je me souviens encore d'avoir encaissé deux coups terribles. Primo, apprendre qu'on avait volé le grimoire dans mon enclave. Secondo, découvrir que Richard avait le don, puisqu'il avait pu apprendre par cœur un livre de magie. Dois-je rappeler qu'un profane ne voit que des pages blanches? Dans ce contexte, découvrir un exemplaire du grimoire dans la crypte fut un événement bouleversant. J'ai lu le texte, et il correspondait mot pour mot à ce que Richard a récité devant Darkenral.
C'était la même chose? Vous en êtes sûr?
À 100%.
Nietzsche commença à ne pas se sentir bien du tout, comme le sorcier.
Eh bien, il n'y a que deux explications. Un des deux livres est l'original, l'autre la bonne copie. Ou les deux sont des faux.
Impossible, dit Zed.
Quand Richard a récité le texte, il a omis un élément capital à la fin. C'est grâce à cette ruse qu'il a vaincu Darkenral. En d'autres termes, il a transformé une copie fidèle en faux. Comme je le lui ai souvent dit, un simple truc est souvent de la très bonne magie.
Nietzsche posa son petit livre sur la table.
Ça ne signifie pas nécessairement qu'il s'agissait de la vraie clé. Regardez plutôt ça.
Elle ouvrit le livre de la vie et désigna la page de garde où ne figurait qu'une phrase.
C'est l'aphorisme fondateur, si je puis dire. Je l'ai traduit et il s'agit d'un avertissement au lecteur. Ceux qui sont venus ici pour haïr doivent à présent partir, car avec leur haine ils ne trahissent qu'eux-mêmes.
Zed plissa les yeux pour mieux voir les mots de Odaran.
Si je comprends bien, tu veux dire que Darkenral, parce qu'il était motivé par la haine, aurait été détruit dans tous les cas, qu'il s'agisse ou non du vrai grimoire?
C'est une possibilité, me semble-t-il.
Désolé, mais je n'y crois pas. Une certaine forme de magie lie les intentions des gens, c'est vrai. Par exemple, l'épée de vérité fonctionne ainsi, mais il y a un bémol. Les gens qui haïssent ne sont pas conscients d'être corrompus. Ils se croient habités d'un juste courroux et se prennent pour des redresseurs de tort. Cette aptitude à se leurrer est en fait ce qui les rend si dangereux. Alors qu'ils font ou disent des choses atroces, ils ont le sentiment d'être des héros. Bref, sans le vouloir, ils abusent la magie que tu évoques.
Si on vous suit, Zed, il faut conclure que l'original et la bonne copie étaient conservés au même endroit, à quelques centaines de pieds près. Vous croyez que les sorciers qui ont fait les copies auraient eu une idée si stupide? Ils ont dispersé les livres aux quatre coins du monde? Tout ça pour ne pas séparer l'original de la copie fidèle? Navré, mais ça n'a pas beaucoup de sens non plus.
Zed se gratta pensivement le menton.
Je vois ce que tu veux dire.
Dans un cas si grave, il doit exister un moyen d'authentifier le texte.
Et il y en a un. Et il est précisé qu'au début du texte, la véracité des phrases du grimoire des ombres recensées, quand elles sont prononcées par une autre personne que le détenteur des boîtes d'Orden, et non lue par celui-ci, exige le recours à une inquisitrice. Une copie est en quelque sorte prononcée par une autre personne, puisque le copiste retranscrit le texte original, il devient un intermédiaire. Pour que cette mise en garde soit inutile, il faut avoir affaire à la clé authentique et faire lire le texte à celui qui a remis dans le jeu les boîtes d'Orden. Sinon, le recours à une inquisitrice est obligatoire.
« Kalan, »
dit simplement Nietzsche. Le sorcier et la mort de Sith comprirent sans peine ce qu'elle sous-entendait.
« Zed, » reprit la magicienne, « aucun de nous ne se souvient de Kalan. Si nous la trouvons après avoir neutralisé le sort d'oubli, est-il possible de lui rendre sa mémoire? Car elle a logiquement tout oublié de sa vie. »
C'était là si irréversible.
Nietzsche ne s'attendait pas à tant de certitude.
Vous n'avez aucun doute là-dessus?
Malheureusement, non. La chaîne de flammes détruit les souvenirs. Il ne s'agit pas de les enfouir ni d'interdire qu'on y accède. Les gens n'oublient pas, ils perdent littéralement leur mémoire. Quand on est la cible du sortilège, les dégâts sont irréparables.
Il doit bien y avoir moyen de restaurer les souvenirs,
intervint Kara.
Un truc magique quelconque.
Restaurer quoi? Ce qui n'est pas stocké dans nos mémoires? La magie est une composante de la vie qui obéit à des règles bien spécifiques, comme tout le reste. Ce n'est pas une conscience géniale cachée derrière une tenture qui peut escamoter la mémoire d'une personne sa vie entière, puis la lui restituer comme par enchantement dans la seule intention de nous faire plaisir.
Mais quand même,
commença Kara, visiblement sceptique.
Prenons un exemple concret. Si je pose ce livre à côté de la table, il tombera sur le sol. La gravité, une force invisible, rend cette issue inévitable. Cette loi physique a des effets toujours semblables. S'il me prenait envie de claquer des doigts pour lui ordonner de me faire la cuisine, elle ne se mettrait pas au fourneau. La magie est une force naturelle, comme la gravité. La chaîne de flammes a ravagé la mémoire de Kalan, et il en sera à tout jamais ainsi. On ne peut pas ramener à la vie ce qui n'est plus dans le monde des vivants. C'est tout simplement impossible. Ce qui n'est plus, n'est plus.
Kara lissa nerveusement sa longue natte blonde.
On dirait que nous sommes dans la mouise.
Et pas qu'un peu,
admit le vieux sorcier. Nietzsche pensa que c'était surtout Richard qu'il fallait plaindre, car la femme qu'il aimait ne se souviendrait même pas de lui. N'osant pas prononcer à voix haute une telle horreur, elle opta pour une approche indirecte qui ne bernerait personne.
« Si Richard trouve Kalan,
demanda-t-elle,
que devra-t-il faire ? »
Zed croisa les mains dans son dos et détourna le regard.
« Il y a un autre moyen d'authentifier le texte, »
dit Kara. Soulagé par cette diversion, le sorcier et la magicienne interrogèrent la mort de Sith du regard.
« Il suffit de trouver les autres copies et de les comparer. Le texte mémorisé par Richard n'existe plus. Sur les 5 encore en circulation, celui qui sera différent des 4 autres ne pourra être que la copie fidèle. Et les 4 copies identiques seront automatiquement de fausses clés. »
Zed fronça les sourcils.
Et qu'arrivera-t-il si les copistes se sont doutés qu'une mort de Sith géniale aurait un jour cette brillante idée? Je vais te le dire. Ils auront réalisé 5 copies différentes, histoire que les comparés ne servent strictement à rien.
Vu comme ça,
marmonna Kara, dépité.
De toute façon, intervint Nietzsche, comment retrouver toutes les copies? N'oubliez pas qu'elles sont dissimulées depuis 3000 ans.
Il y a plus grave, dit Zed. Nathan nous a parlé d'une crypte sous les catacombes du palais des prophètes. Or, ce complexe a été détruit, complètement rasé, je veux dire. Et comme il était bâti sur une île qui a coulé, l'eau se sera chargée de dévaster la crypte, si par hasard il en restait quelque chose. En conséquence, la copie du grimoire qui était peut-être cachée là est perdue à jamais. Était-ce une fausse clé? Une vraie? Nous ne le saurons jamais. Et au fil des siècles, d'autres copies ont pu être détruites. La question reste donc entière. Le texte qu'a mémorisé Richard et la copie que j'ai retrouvée ici sont-ils authentiques?
J'ai peur que la réponse soit négative,
dit Nietzsche.
Si je savais comment en être sûr,
marmonna Zed.
Il y a peut-être deux moyens de découvrir la vérité. Le premier est hypothétique car je viens à peine de commencer la traduction du livre de la vie. Dedans, il y a des indications concernant la bonne façon d'utiliser la clé. Une chose paraît claire. Si la personne qui a remis les boîtes dans le jeu ne se sert pas correctement de la clé, elle sera tuée et les boîtes disparaîtront avec elle.
« Ne se sert pas correctement de la clé, » répéta Zed pensif.
« Il semble n'y avoir qu'une interprétation possible. Si Darkenral avait mal utilisé la clé à cause de la ruse de Richard, les boîtes d'Orden se seraient volatilisées au moment de sa mort. Or, nous savons que ce n'est pas le cas. Selon moi, Richard a récité la fausse clé. » et Darkenral est mort parce qu'il a ouvert la mauvaise boîte. Dans le livre de la vie, je n'ai rien trouvé au sujet de la fausse clé, et c'est normal puisque celle-ci n'existait pas au moment de la rédaction du texte.
Tu es sûr de ce que tu avances, Nietzsche ?
Non, avoua très honnêtement la magicienne. C'est très compliqué, et je viens de commencer à travailler sur le livre. Je me suis attardé sur la partie qui parlait de la clé, mais sans vérifier toutes les formules et incantations. Je vous donne seulement ma première impression.
Nietzsche se passa une main dans les cheveux et soupira.
Cela dit, j'y crois dur comme fer. Si Richard avait contraint Darkenral à mal utiliser la clé, les boîtes ne seraient plus présentes en ce monde. Du coup, on peut conclure que Richard a mémorisé un texte erroné.
C'est possible, mais loin d'être certain puisque tu admets toi-même avoir des doutes. Méfions-nous des conclusions hâtives.
Nietzsche acquiesça.
Tu as parlé de deux moyens,
lui rappela Z.
C'est exact. Vous vous souvenez de la prophétie que nous a lue Nathan. Durant l'année des cigales, quand le champion du sacrifice et de la souffrance, celui qui marche trompeusement sous la bannière de la lumière et de l'humanité, divisera enfin ses forces, la prophétie aura été éveillée et la bataille finale ne tardera plus. La prudence s'impose, car dans cette arborescence de prophétie, les bonnes fourches et les mauvaises sont inextricablement emmêlées. Un seul tronc existe, mais ses ramifications dépassent l'imagination. Si Fuer Grissa Host Drauka n'est pas à la tête de ses forces lors de l'affrontement final, le monde basculera pour toujours dans les ténèbres qui menacent depuis longtemps de le dévorer. Vous voyez les corrélations à présent. Le champion du sacrifice et de la souffrance est bien entendu Jagang, le maître de l'ordre impérial. Il a récemment divisé son armée, donc nous sommes bien près de la bataille finale.
Comme pour confirmer les propos de Nietzsche, un sinistre roulement de tonnerre fit vibrer les murs pourtant épais du complexe.
« Je ne vois pas vraiment où tu veux en venir, »
admit Zed.
« Pourquoi Anna et Nathan ont-ils volé le grimoire afin que Richard en dispose ?»« Parce qu'ils ont mal compris cette prophétie, pensant que la bataille finale opposerait Richard à Darkenral. » Croyant que Richard aurait besoin de ce texte, ils se sont emparés de l'unique exemplaire du grimoire, unique pour ce qu'ils en savaient, bien entendu. Vous comprenez maintenant? Tout ça était beaucoup trop facile. En réalité, Richard est né pour affronter Jagang et les conséquences des actes criminels des Sœurs de l'Obscurité qui ont remis dans le jeu les boîtes d'Orden. Le combat contre Darkenral n'était qu'un prologue et rien de plus. Zed. Je pense que la prophétie nous avertit que Richard a mémorisé le mauvais texte. Songez à cette phrase. La prudence s'impose, car dans cette arborescence de prophétie, les bonnes fourches et les mauvaises sont inextricablement emmêlées. Si la clé authentique peut être assimilée à une bonne fourche, les mauvaises copies lui ressemblent assez pour qu'on puisse utiliser l'expression « inextricablement emmêlée ». Faut-il en conclure que la lutte contre Darkenral était une mauvaise fourche? N'en sachant pas assez long à l'époque, puisque l'histoire commençait à peine, Anna et Nathan, trop confiants, ont préparé Richard à affronter Darkenral, pas l'empereur Jagang. Mais la prophétie dit autre chose. Si Fuer Grissa Host Drauka n'est pas à la tête de ses forces lors de l'affrontement final, le monde basculera pour toujours dans les ténèbres qui menacent depuis longtemps de le dévorer. Les ténèbres dont il est question, c'est le pouvoir d'Orden récemment libéré par les Sœurs de l'Obscurité. Mon interprétation est peut-être osée, mais j'ai des arguments qui se tiennent. Par exemple, il ne peut pas être question de l'ordre impérial, puisqu'on parle de ténèbres qui menacent depuis longtemps de dévorer le monde. L'ordre impérial n'existe pas depuis très longtemps, justement. Pour moi, c'est une certitude. Le vrai combat, c'est celui contre Jagang.
Le front plissé, Z marcha quelques instants de long en large, puis il s'arrêta et regarda Nietzsche.
Tout ça se tient, mon enfant. Tu connais beaucoup mieux que moi les prophéties et je dois te faire confiance. Mais pas aveuglément, pourtant. Les prophéties ne sont pas un objet d'étude comme les autres. De plus, elles sont là pour permettre à des prophètes de parler à d'autres prophètes. En l'absence d'une variante très particulière du don, un individu ne peut pas se targuer de savoir les déchiffrer. Nietzsche, ne commets pas l'erreur de tirer trop vite des conclusions de tout ça. Sinon, tu risques de te tromper du tout au tout, comme Anna et Nathan.
Je comprends très bien votre point de vue, Zed, et croyez-moi, ce n'est pas une déclaration hypocrite. Je ne suis pas là pour avoir raison contre vous. En revanche, je ne vous cacherai jamais des informations que j'estime essentielles, et c'est le cas de celles dont nous venons de parler.
Je le sais, et je t'en suis reconnaissant. Mais il y a une autre chose à ne pas perdre de vue. Les prophéties insupportent Richard. Il tient à son libre arbitre, comme à la prunelle de ses yeux, et ce sont en général les prédictions qui doivent s'adapter à ses actes et pas le contraire. Mais prenons le cas de Darkenral. Ce n'était peut-être pas le véritable ennemi de Richard, mais s'il avait remporté la victoire, on trouverait des défenseurs des prédictions pour affirmer qu'il devait en être ainsi. Nous serions sur une mauvaise fourche sans doute, mais qui le saurait? Dans les recueils, il y a assez de prophéties obscures pour justifier à peu près n'importe quoi.
C'est vrai, admit Nietzsche. Sur ce point-là, je ne peux pas vous contredire.
La magicienne était épuisée. Si elle dormait un peu, elle pourrait sans doute réfléchir de nouveau clairement. Au fond, son inquiétude pour Richard la forçait peut-être à explorer de fausses pistes, et il fallait qu'elle se reprenne.
Au point où nous en sommes, résuma Zed, il est impossible de dire si le texte mémorisé par Richard est vrai ou non. Idem pour le volume que j'ai découvert ici.
Qu'allons-nous faire? Demanda Nietzsche.
Récupérer Richard au plus vite, histoire qu'il nous sorte de la panade.
Nietzsche sourit. Comme Richard, le vieil homme avait l'art de regonfler le moral des gens quand ça s'imposait.
Mais avant qu'il soit là, ajouta le vieux sorcier, nous avons intérêt à découvrir quelle version du grimoire il a mémorisé.
Nietzsche referma le livre de la vie, s'en empara et le glissa dans le creux de son bras.
Je dois étudier ce livre du premier au dernier mot, afin de savoir s'il y a un moyen de retirer du jeu les boîtes d'Orden. Richard m'a confié une mission et je dois m'en acquitter.
Tu vas devoir t'épuiser au travail, mon enfant. « Parce qu'il peut falloir des mois pour bien comprendre un grimoire si compliqué. J'espère que tu en disposeras, même si j'en doute. Quoi qu'il en soit, tu as raison. Il faut commencer sans tarder. »
Nietzsche remit le livre dans sa poche.
« J'ai commencé, je ne relâcherai pas mon effort. Si j'ai besoin de certains ouvrages présents dans vos bibliothèques, je vous le ferai savoir. D'après ce que j'ai vu, il me faudra des informations sur des sujets très pointus. » L'aide active du premier sorcier ne pourra pas me faire de mal.
Elle t'est acquise, mon enfant.
Nietzsche braqua sur le vieil homme un index impérieux.
Mais si vous trouvez un moyen de récupérer Richard, n'attendez pas plus de 10 secondes avant de venir me le dire.
Marché conclu.
Et si nous ne le récupérons jamais?
Demanda Kara. Le sorcier et la magicienne la foudroyèrent du regard.
« Nous le retrouverons, »
affirma Nietzsche, refusant d'envisager le pire.
« Rien n'est jamais facile, »
marmonna Zed, très inquiet.